les champions de la diversité.
Ils vivent l'interculturalité.
Et déconstruisent vos clichés.
Une émission proposée par Carrefour des Cultures.
En partenariat avec l'IEX et Vénalux. Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Champions de la Diversité.
Et pourquoi champions?
Parce qu'aujourd'hui nous sommes en présence des premiers bacheliers préscolaires et primaires de l'ENALUX, c'est-à-dire la haute école de Namur-Liège-Luxembourg, se trouvant à Champion.
Et la diversité dans tout ça?
Eh bien ce projet radiophonique a été créé dans le cadre du cours de diversité culturelle donné justement à l'ENALUX et qui offre donc la possibilité aux étudiants de se faire entendre et surtout de présenter leur propre vision de l'interculturalité, de la diversité culturelle. Ensemble, nous avons préparé une émission qui va déconstruire les clichés.
Il est plus facile de désintégrer en atomes qu'en préjugés. Cette citation d'Albert Einstein va être mise à mal aujourd'hui par les étudiants. En effet, ces jeunes vont vous prouver que tous les clichés que l'on peut se faire d'un pays n'ont pas lieu d'être et qu'il est donc facile de les casser.
Nous allons donc vous présenter les différents clichés travaillés par les étudiants sous forme de thématiques. Nous commencerons donc par la thématique de la femme, suivie de la religion, puis nous irons vers les us et coutumes pour enfin terminer par l'éducation.
Le Congo, le Maroc, la Turquie, l'Albanie et la Belgique vont être les principaux lieux d'où partent les clichés. Mais avant, nous vous proposons d'imaginer un monde sans clichés et d'écouter cette superbe reprise d'Imagine par Jack Johnson.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. And above us is only sky. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. The world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life for peace. And you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
Passons au reportage concernant la thématique de la femme. Ici, on va s'intéresser à l'Albanie. Et donc, nous avons face à nous les primaires C et les préscolaires A. Tamara et Anaïs, quel est le cliché que votre classe a travaillé au niveau des femmes en Albanie?
Donc, le premier cliché était que les femmes albanaises se mariaient très jeunes.
Et voici notre première interview.
Il y a près de 100 ans, le recensement albanais nous apprenait que 29% des filles se mariaient à l'âge de 15 ans et 53% des adolescentes se mariaient à l'âge de 18 ans. Nous constatons alors que les Albanais se marient très jeunes. Mais est-ce toujours le cas aujourd'hui?
Pour répondre à ces questions, voici l'interview de Tony, un Albanais de 40 ans.
Pensez-vous que les femmes albanaises ont leur mot à dire sur les mariages?
Oui, je pense qu'elles ont leur mot à dire, dans le sens où elles peuvent se marier avec qui elles veulent, du moment que ça reste un Albanais. Donc disons que c'est et oui et non par rapport à ça. Mais ça évolue au fil des années. On remarque que la modernité prend le dessus sur la plupart des couples, on va dire, même albanais.
Comment explique-t-on que les femmes sont généralement plus jeunes que les hommes pour se marier?
Je pense que c'est une généralité qui englobe tout le monde, même les gens d'autres nationalités. Il est vrai que les filles se marient assez jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a généralement un écart entre les deux, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une raison à cela. Je pense que les hommes sont matures plus tard que les femmes. Ça, je crois aussi que c'est en général. Donc voilà pourquoi je pense que les hommes ont un âge un peu plus élevé que les femmes quand ils se marient.
Les femmes albanaises se marient jeunes. Est-ce un mythe ou la réalité?
Ça change au fil des années. On remarque qu'il y a une évolution aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'elles se marient jeunes parce qu'elles ont une certaine maturité. Comme ce n'est pas des femmes qui sortent énormément, donc c'est des femmes qui ont une adolescence assez courte. Je connais plusieurs cas autour de moi qui se sont mariées à l'âge de 25, mais elles ont trouvé leur copain vers 18 ans.
Suite à cette interview, Anaïs, que penses-tu de ce cliché ?
On comprend bien qu'il y a 100 ans, c'était bien le cas, les femmes se mariaient très très jeunes. Mais maintenant, elles ont le choix, elles peuvent se marier avec qui elles veulent, tant que ça reste une personne d'origine albanaise. Donc le pays a quand même bien évolué et il faut encore lui laisser un peu de temps, je pense.
Merci Anaïs. Et toi Tamara, que penses-tu ?
Je pense qu'elles sont beaucoup reliées à leur religion. Elles sont adultes plus vite. Mais bien sûr, les femmes qui se marient jeunes ne touchent pas seulement l'Albanie, elles peuvent toucher d'autres pays.
Et Tamara, qu'en est-il du second cliché?
Un groupe a voulu travailler, les femmes albanaises sont soumises.
Et tout de suite, passons au reportage.
En 2004, Amnesty International a récolté plusieurs témoignages de femmes albanaises subissant des violences conjugales. Une de ces femmes, souhaitant rester anonyme, a accepté de relater son vécu.
Mon mari a commencé à me battre dès le lendemain de nos noces. Il était jaloux en permanence. Un jour, nous regardions des photos du temps où j'étais célibataire. Et sur une photo, j'étais à côté de mon cousin Germain. Il m'a frappée parce qu'il était jaloux. J'étais atterrée. Mon père n'avait jamais battu ma mère. Mais j'ai cru que ça ne se reproduirait pas.
Faut-il en faire une généralité?
Eh bien non. Dès les premières années qui suivirent la libération de la femme, le Parti communiste albanais s'est assez vite rendu compte que la place de la femme dans le socialisme était aussi importante que celle de l'homme. En effet, sa contribution intellectuelle et son énergie physique ont été une grande force dans la politique du pays. Dans tout le pays, l'État albanais a fait d'énormes progrès afin de renforcer le cadre légal, dans le but de promouvoir les droits des femmes et lutter contre les violences domestiques. Aujourd'hui, la femme a le droit de participer à la vie active du pays au même titre que l'homme. En effet, la loi albanaise permet aux femmes de choisir leur métier tout à fait librement. Elles bénéficient aussi d'un congé payé annuel après avoir travaillé pendant 11 mois de suite, leur permettant de passer des vacances agréables.
Tout ceci nous montre que le problème d'émancipation de la femme a reçu une solution d'ensemble, mais aussi qu'un tournant radical a été effectué dans la conception du monde et la conscience des femmes.
«
Et donc, suite à ce reportage, est-il vrai de dire que les femmes albanaises sont encore soumises ?
Non, puisque il y a des lois qui protègent les droits des femmes et elles participent à la vie active.
Donc, sur ce point-là, moi, je rejoins Tamara, mais bon, il y a des femmes soumises un peu partout. Donc, voilà, mais bon, pas forcément rien qu'en Albanie.
Et donc, nous passons sur le reportage au Maroc.
Nous retrouvons, pour le thème qui est la femme, la classe de primaire D. Quel est le cliché choisi par cette classe ?
Alors, le cliché que nous avons choisi est le suivant. Les femmes marocaines sont des femmes maltraitées.
Et donc, pour cela, nous allons écouter un premier témoignage.
Il y a des femmes de plus en plus indépendantes. C'est une femme qui dirige Marrakech. C'est une mère qui a été élue il y a une dizaine d'années et qui... Ceux qui habitent Marrakech, ils sont très contents d'elle. Donc je pense que l'indépendance des femmes là-bas est une réalité pour beaucoup. Alors pas toutes évidemment, et puis bon, c'est pas parce qu'on est marocain qu'on est battu. Il y a des femmes battues en Belgique aussi. C'est pas une question de nationalité, c'est une question de relation entre un homme et une femme. Et bon, il y a des hommes qui sont plus dominants, des femmes qui acceptent la dominance. Ça sous-entend en fait qu'elles seraient plus maltraitées parce qu'elles sont musulmanes, ce qui n'est pas non plus vrai, quoi. Souvent, on met les deux ensemble.
Non. Pas du tout. Pour moi, toutes les femmes du monde entier sont maltraitées. Il n'y a pas qu'au Maroc. Mais effectivement, je pense qu'il y a une idée qui s'est forgée dans la tête des Européens que les femmes marocaines sont plus maltraitées que les Européennes. La femme marocaine a pris énormément de place dans la vie de tous les jours. Ça prouve que maintenant, la femme marocaine est plus respectée qu'il y a peut-être, je dirais, cinquantaine d'années. Mais effectivement, on a toujours ce cliché de l'arabe qui maltraite son épouse, qui doit toujours... je veux dire, on dit toujours un homme arabe, quand il rentre chez sa femme, à la maison, il va frapper sa femme, parce que si elle ne sait pas pourquoi, mais lui sait pourquoi, c'est un proverbe qu'on dit... Mais la femme marocaine n'est pas plus maltraitée pour moi qu'une femme qui vit en Europe. Voilà, c'est la même chose.
Et toi, Rebecca, que penses-tu de ce cliché ?
Bien, moi, je pense que les femmes maltraitées existent partout et pas dans une communauté ciblée. Il s'agit bien d'un cliché, mais si on regarde bien les femmes marocaines aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'elles ont accès au vote, elles ont accès à des études de haut niveau, parfois même plus haut niveau que certains hommes marocains. Et dans l'ensemble de mes connaissances personnelles, ce sont des femmes tout à fait épanouies.
Les femmes peuvent être maltraitées, mais c'est le cas partout dans le monde, et ce n'est pas uniquement le cas au Maroc.
Passons au reportage sur le Congo.
Pour cela, nous retrouvons les classes de bachelier primaire A et presque C. Pouvez-vous nous expliquer par rapport aux clichés qui se retrouvent sur les femmes au Congo ?
Le premier cliché qui a été travaillé est « Les femmes congolaises sont inférieures aux hommes ».
Pour cela, nous avons réalisé un reportage que voici.
Non, sûrement pas. À mon avis, elles seraient même supérieures aux hommes, vu toutes les activités qu'elles ont, mère de famille, ménagère, travaillant dans les champs, quand c'est à la campagne, ou ayant des petits commerces dans la ville. Non, sûrement pas, elles ne sont pas inférieures. Mais je pense quand même que l'Africain mâle aimerait bien qu'elle soit inférieure, ça les arrangerait rudement bien.
« Est-ce que ce cliché, donc les femmes congolaises sont inférieures aux hommes, est présent ou pas? Et qu'en pensez-vous?
Ben moi, je trouve qu'il est présent. Oui, il y a une égalité entre l'homme et la femme au Congo, mais en Europe aussi. Alors, on ne peut pas dire que c'est un cliché, mais plutôt une réalité du monde qu'il faudrait changer.
Pour moi, il y a, donc je pense aussi qu'il y a bien des inégalités, mais en Belgique aussi. Maintenant, dans certains domaines, la femme a elle aussi le pouvoir. Mais pour moi, les conflits politiques et sociaux n'arrangent rien.
Et maintenant, nous passons au reportage sur le Congo.
Pour cela, nous retrouvons les classes de bachelier primaire A et préscolaire. Alors, que pouvez-vous nous expliquer par rapport aux femmes sur le Congo?
Le cliché que nous allons aborder est la place de la femme dans la société congolaise.
Pour cela, notre classe a réalisé un reportage que nous allons vous faire écouter tout de suite.
Le 8 mars dernier, comme chaque année, la journée de la femme a eu lieu. Le but de cette journée, qui existe depuis plus de 90 ans, est de prôner l'égalité, la justice, la paix et le développement. Cette année, le Congo a pris comme thème l'autonomisation de la femme et sa participation politique. Dans l'interview que vous allez entendre, on parle de la place qu'a la femme au Congo. Beaucoup de personnes pensent que la femme n'a aucune importance dans la société congolaise. Vérifions si c'est réellement le cas.
Non, je pense qu'elle a tout à fait sa place dans la société. Au contraire, je dirais au Congo, la femme a plus facile d'avoir un statut et un rôle valorisant que dans d'autres sociétés.
Et vous, que pensez-vous de ce cliché?
Je pense que le cliché n'a pas lieu d'être parce que les femmes s'occupent de la maison, les femmes s'occupent des enfants, elles s'occupent aussi de leur mari. Et au Congo, les femmes travaillent aussi dans les champs, elles vont jusqu'à labourer les champs, etc. C'est quand même très important. Sans ça, les hommes ne pourraient même pas vivre, ni les hommes, ni les femmes d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'elles ont bien leur place dans la société.
Je suis tout à fait d'accord avec Nadine. En plus, au Congo, il existe le ministère de la promotion de la femme depuis 1990, alors qu'ici en Belgique, nous en avons un seulement depuis 2014. Et puis, il y a plusieurs projets qui sont en place pour développer un peu l'éducation, etc., chez les femmes, comme par exemple, notamment, la bourse d'études pour les femmes au bassin du Congo, où ils proposent plusieurs formations destinées aux femmes.
Donc, tu veux dire par là que le Congo a bien évolué?
Oui, on va dire, par rapport à l'Europe en général.
Et donc, en une phrase, comment vous pourriez conclure que les femmes ont effectivement leur place dans la société congolaise?
La femme est un pilier très important dans la société congolaise. Vraiment, c'est tout à fait le contraire.
Passons maintenant à la Belgique.
Le cliché travaillé pour la Belgique est « les femmes portent la culotte dans le couple ».
Et tout de suite, nous vous proposons une interview. Avant de savoir si les femmes dirigent vraiment le monde, comme le chante Beyoncé, tentons de savoir si le cliché « les femmes belges portent la culotte dans le couple » est bien réel.
C'est un cliché qui appartient à une société de nos parents et de nos grands-parents et qui n'est plus de mise à l'heure actuelle, parce que la vie actuelle fait que la vie de couple est une vie de partage, c'est une vie d'égalité. Il n'y a plus ce cliché d'un dominant et d'un dominé. Alors, c'est des clichés anciens ou quelle est la signification de cela? Peut-être à une époque où le mari était effectivement l'homme qui ramenait l'argent, il devait être très fréquemment absent, non seulement pour son travail, parce que ça durait, c'était des journées de travail de 10-12 heures, plus en fait la fréquentation des loisirs tels que les cafés ou autres. Donc il n'était pas à la maison pour gérer ce qu'on appelle le quotidien du couple et le quotidien de la famille. Et donc c'était la mère qui gérait tous les soucis familiaux, les soucis sociaux, les soucis d'éducation des enfants. Et donc elle utilisait l'argent qui lui était rapporté par son mari que pour pouvoir faire toutes ces besognes et ce travail. Et donc on peut dire qu'à ce moment-là, elle portait effectivement la culotte d'un mari qui était éternellement absent. Donc ça, pour moi, c'est encore une fois un cliché qui est ancien et dont on n'a plus aucune application à l'heure actuelle. Maintenant, on est dans l'égalité pour tout, pour toutes, avec des devoirs pour l'un, des droits pour l'autre, et qu'il n'y a plus ce cliché de divergence ou de dominance de l'un par rapport à l'autre.
Je dirais que c'est un cliché un peu à double sens, parce que si je dis oui, ce serait prouver d'une certaine manière comme quoi la femme serait supérieure à l'homme, et dire non, ce serait alors prouver le contraire. Donc moi je dirais plutôt que ça dépend d'un couple à l'autre. Donc évidemment, il y a certaines femmes qui auront un fort caractère, qui auront beaucoup à parler, beaucoup à dire, et qui auront beaucoup de responsabilités, peut-être même plus que les hommes. C'est vrai qu'on a tendance aussi à vite penser qu'en Europe ou au nord de l'Amérique, vu le fort caractère des femmes comme les mamas italiennes ou même espagnoles, on a vite tendance donc à se dire « oui, c'est la femme qui porte la culotte ». Mais franchement, ça dépend d'un couple à l'autre. Donc il y a certains couples où c'est vrai que la femme sera mise en avant, d'autres couples où ce sera l'homme qui sera mis en avant, et d'autres couples encore où là, ce sera moitié-moitié. Donc je pense, oui, il existe des femmes qui portent la culotte dans un couple, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, mais dans d'autres cas, il existe aussi des couples où c'est l'homme qui porte la culotte.
Ritz, Harry Ritz, Ritz up.
Après avoir analysé plusieurs clichés concernant la femme, nous pouvons, je pense, conclure que ces différents clichés ne traduisent pas la réalité et que les jeunes ont bien compris que la femme, malgré les difficultés dans le passé, est et doit être l'égal de l'homme, et ce, peu importe la nationalité. Nous vous proposons un interlude musical qui va introduire le prochain thème. Et maintenant, passons à la thématique de la religion en Albanie avec les préscolaires A.
Et pouvez-vous nous introduire le cliché que votre classe a travaillé ?
Un troisième groupe a décidé de travailler le sujet « Les Albanais ne sont pas ouverts aux autres religions ».
Et voici l'interview.
Selon la revue française des études balkaniques, bien que le pays soit partagé par la religion chrétienne à 30% et musulmane à 70%, une majorité des personnes faisant partie des communautés religieuses ont une vision relativement néfaste des autres communautés. Ils cohabitent pacifiquement, malgré les nombreuses tensions originaires des conflits. Alors, qu'en est-il ? Les Albanais sont-ils réellement fermés aux autres religions ?
C'est le seul pays au monde où les trois religions vivent en parfaite harmonie. Dans certaines villes, on trouve une église à côté d'une mosquée. Il n'y a pas de différence entre les religions.
La religion est fort présente chez nous. Les pratiquants ne sont pas si croyants que ça. On retrouve des musulmans qui mangent du cochon.
Suite à cette interview, que pensez-vous donc de ce cliché ?
Eh bien que la religion est propre à chacun et c'est quand même un des pays où il y a trois religions et où elles vivent toutes en harmonie.
Ben, je rejoins un peu l'idée avec Anaïs qu'il y a une harmonie entre les religions, il n'y a pas vraiment de différence et qu'ils ne sont pas très pratiquants non plus.
Et qu'en est-il pour la classe de primaire C ? Mathias, peux-tu nous introduire le cliché de votre classe ?
Oui, bien sûr. On a analysé donc trois clichés. Et le premier des clichés qu'on a analysé, c'est « Les Albanais sont tous musulmans ».
Et voici une interview réalisée par des camarades de notre classe.
Chrétien, musulman, athée, telle est la question. Elle peut vous paraître évidente, et pourtant... Nous sommes descendus dans les rues de Namur, interroger les passants avec une question. Quelle est la religion des Albanais ?
Je ne suis pas pratiquant. Je suis de tradition familiale musulman, mais j'ai dans ma famille, en l'occurrence, mon grand frère était chrétien, était catholique. Voilà un peu la nature ou la nature religieuse des Albanais. Leur foi est plutôt une foi patriotique. Il y a un écrivain célèbre albanais qui a dit que la religion des Albanais, c'est la patrie.
On m'a dit qu'il était trop vieux pour tous nos pleurs, qu'il est trop riche pour écouter nos pauvres cœurs, qu'il est trop pris, qu'il est femme, qu'il est homme, qu'il est hétéro, qu'il est gay, qu'il est chanteur, qu'il est DJ, qu'il est mort et qu'il est né, qu'il est même musulman aux juifs. Qu'il est bouddhiste et athée. Au nom du rythme et des gens, je crie Alléluia.
Alors, les Albanais, tous musulmans, Mathias ?
Majoritairement, j'ai envie de dire oui, mais pas que. Ils sont, y a vraiment un pourcentage plus grand chez les musulmans, mais il y a aussi 12-13% d'orthodoxes, 15% de catholiques. Donc voilà, ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment une mixité dans ce pays. Et c'est ça qui est génial, contrairement au pays, par exemple, je peux prendre le nôtre ici, où voilà, c'est un peu plus délicat, les religions, clairement, mais que là-bas, vraiment, il y a un respect des religions, et ça, c'est vraiment beau.
Je pense que le vivre ensemble est vraiment important, donc on voit cette mixité, cette richesse et ce respect des religions d'autrui qui est très belle. Et la vraie religion de l'Albanie, c'est l'Albanie, c'est une unité autour d'un peuple qui est belle à voir.
Oui, et si je veux peut-être rajouter un truc aussi, c'est qu'il y a des athées. Hein. Il y a aussi des athées en... Donc il y a de tout.
Donc en gros, bah, c'est un peu comme en Belgique. Il y a diverses religions qui se côtoient, qui s'entendent et... Enfin, peut-être...
Ils sont plus ouverts.
Et maintenant, nous revenons sur le Maroc. Pouvez-vous nous rappeler le cliché que vous avez travaillé ?
Alors le prochain cliché, c'est « Il n'y a que les religions qui comptent pour les Marocains ».
Et voici le reportage que nous avons réalisé.
Est-il vrai alors de dire qu'il n'y a que leur religion qui compte ?
Ben non, parce qu'en soi, chaque pays a ses coutumes, et n'oublions pas que c'était pareil chez nous il y a moins de 100 ans, où le catholicisme était aussi très important pour la grande majorité des familles. Et ensuite, pratiquer une religion n'est pas mauvais, que du contraire, du moment qu'il n'y a pas d'abus.
Merci Nicolas. Et toi Rebecca ?
Bien, je pense, comme Nicolas, que c'est plus une question culturelle, mais qu'il n'y a rien de suprême. Rien n'est poussé à l'extrême et effectivement on ne se pose pas la question de savoir si les catholiques n'ont que la religion dans leur vie et effectivement je le rejoins aussi sur le fait de penser que ça fait plutôt partie de leur bien-être.
Et donc en conclusion nous pouvons dire que non, la religion n'est pas, on va dire, forcément leur priorité, en tout cas pas à tous. Passons au reportage concernant la Turquie. Nous retrouvons la classe de primaire B. Vous allez nous présenter en cliché, mais quel est-il ?
Alors, le premier cliché qu'on va vous présenter, c'est « Les Turcs sont trop braqués sur leur religion ».
Je vous propose d'écouter cette interview que notre classe a préparée.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي
Thank you.
peut-être maintenant avec le gouvernement actuel qui est un gouvernement, le gouvernement de Erdogan, de Tayyip Erdogan, qui est plutôt assez près des islamistes, des oui, on peut le dire, ils sont portés sur la religion, mais c'est une religion qui est assez tolérante, dans le sens qu'on peut considérer la Turquie un des seuls pays laïcs au monde, hein, où on peut dire 90% de la population est laïque. Mais est-ce que ça implique une non-religion? Je ne sais pas, la laïcité est devenue aujourd'hui où on veut faire de la laïcité une autre religion, mais hélas, il faudrait encore se battre comme les chrétiens se sont battus pendant 2000 ans pour imposer la foi.
Alors, ce cliché, est-ce que vous pensez qu'il est faux ou vrai?
Moi, personnellement, je suis tout à fait contre ce cliché. En effet, j'ai des amis qui sont turcs et ils sont pas du tout braqués sur leur religion. Ils sont vraiment ouverts aux autres cultures. Alors, il est vrai qu'on pourrait penser que leurs parents, eux, sont fort braqués sur leur religion. Ils ont des principes et tout ça. Mais je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, d'origine étrangère, dont les Turcs, sont vraiment ouverts aux autres cultures. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Je rejoins un peu l'avis de William. Je trouve que les musulmans plus âgés pratiquent leur religion plus intensément et respectent les contraintes qui leur sont imposées. Par contre, les plus jeunes sont un peu plus laxistes. Ils pratiquent toujours leur religion, mais ne respectent pas toutes les règles. Selon moi, chacun pratique et croit à sa manière.
Ok, et comment est-ce qu'on pourrait conclure ce cliché? Est-ce qu'il est d'application?
Oh non, il est vraiment totalement absurde. Je pense que Mélanie ne va pas me contredire. Il n'a pas de raison d'être.
Et qu'en est-il pour la religion en Belgique?
Eh bien, le cliché que nous avons traité est « Les Belges sont tous catholiques ».
Et tout de suite, l'interview. Never mind that space stuff, let's get down to Earth.
Dieu, cet architecte du monde, est présent dans tous les pays sous différents noms. Mais est-il vrai de dire que les Belges sont catholiques sinon rien?
Notre pays, donc la Belgique, est un pays qui a adopté ce qu'on appelle la neutralité par rapport à la religion, par rapport aux religions, je dirais même. Donc cela signifie qu'elle est bienveillante et qu'elle est conciliante envers toutes les religions, pour autant que celle-ci n'aille pas contre l'ordre établi. Notre pays compte un nombre non négligeable de musulmans, de juifs, de protestants. En comparaison, vous avez le nombre de catholiques pratiquants qui, lui, justement, a tendance à diminuer ces dernières années. Je connais d'ailleurs plusieurs personnes de mon entourage qui se sont débaptisées, simplement parce que d'une part, ils ne se retrouvaient pas dans la religion catholique, et d'autre part, c'était une manière de matérialiser cette séparation. C'était une façon simplement de dématérialiser leur appartenance à la religion. Et pour terminer avec votre cliché qui n'en est pas un à mon sens, c'est que j'habite dans un quartier à Skarbek, près de l'Opal, dans lequel vous avez énormément de religions qui se côtoient, et donc non, les Belges ne sont pas tous catholiques, loin de là.
Alors pouvons-nous dire encore que les Belges sont tous catholiques?
Eh bien, je dirais que non, parce que la Belgique, et il est vrai, est effectivement de tradition catholique. Et j'ai d'ailleurs été éduquée dans cette religion parce que mes grands-parents étaient catholiques, mes parents sont catholiques. Mais actuellement, il y a une cohabitation avec d'autres religions qui fait que les adolescents, même les adultes, se sont posés plusieurs questions par rapport à leur propre vision de la religion. Et sont devenus soit agnostiques, athées, ou pratiquent encore une autre religion. Alors, l'école aussi témoigne de cet exemple de tradition catholique. En Belgique, il était de tradition de nouveau d'être dans une école catholique. Et évidemment, actuellement, elles ne sont plus ce qu'elles étaient.
Effectivement, durant les cours de religion, on ne se centre pas uniquement sur la religion catholique, mais on voit d'autres religions. Aujourd'hui, il y a aussi un débat sur ces cours de religion qui fait qu'on va proposer à l'élève de suivre le cours de religion, donc des religions, ou alors un cours de morale, ou encore de ne rien suivre du tout. Donc il y a vraiment un débat qui se fait autour de la religion actuellement, mais pas uniquement catholique. C'est une religion qui est multiple, c'est même des religions. Et en Belgique, on peut dire qu'il y a un véritable brassage religieux. Voilà. On peut conclure le thème de la religion en expliquant que la religion reste importante dans la société, mais ne la dirige pas, parce qu'elle est propre à chacun. Chacun l'applique à sa manière, peu importe sa nationalité. Le thème suivant met en avant les us et coutumes des pays choisis. Mais avant de passer au cliché sur les us et coutumes, écoutons cette reprise de Bob Dylan, Wedding Song, par Angus and Julia Stone. Maintenant, passons à la thématique des us et coutumes avec les préscolaires A qui nous parlaient de l'Albanie.
Et donc, pouvez-vous nous rappeler le cliché que votre classe a travaillé ?
Un groupe a décidé de prendre la thématique « Les Albanais sont très centrés à leur tradition ».
Et tout de suite, l'interview.
Et t'as vu ? El Medina se marie avec Bekim.
Ouais, je suis même invitée. Quelle horreur ! Tu vas y aller, toi ?
Je pense pas. J'ai peur de voir tous ces Albanais avec leurs traditions bizarres.
C'est clair.
On a toujours raison, la femme n'a rien à dire. Oh, elle se prépare à faire à manger toute sa vie.
Mais est-ce la vérité ? Nous allons enquêter.
Je ne trouve pas que les Albanais soient complètement centrés sur leurs propres coutumes. J'ai des élèves albanais en cours de français langue étrangère. Et c'est justement des gens qui sont très très ouverts à la culture belge, qui ont beaucoup beaucoup, beaucoup de connaissances sur ce qui se passe à Namur par exemple. Ils sont vraiment ouverts sur le monde et sur les autres communautés.
Comme
suite à cette interview, pouvons-nous encore dire que les Albanais sont trop centrés sur leurs coutumes ?
Eh bien, les traditions sont importantes pour les personnes mariées et pour les jeunes d'aujourd'hui, mais pas dans l'extrême.
Les traditions sont propres au pays même, donc elles touchent quand même toutes les religions. Elles sont importantes aux yeux de tous les Albanais, mais elles ne sont pas indispensables.
Et qu'en est-il pour la classe de primaire C ? Maxime, peux-tu nous introduire le cliché ?
Oui, bien sûr. Le cliché était donc « Les Albanais sont nationalistes ».
Donc nous allons l'écouter tout de suite. C'est parti.
Nationaliste, c'est trop dire. Je n'oublie pas mes racines. Il ne faut surtout pas oublier d'où l'on vient. Et pour rien au monde, je ne cacherai ou dirai que je ne suis pas albanais. Mais à cause du communisme, les gens ont beaucoup été renfermés sur eux-mêmes et ils n'ont pas vraiment eu la vision du monde extérieur. Et c'est vraiment soit albanais, soit rien du tout. Et moi, je pense que c'est beaucoup négatif et que l'Albanie devrait plus s'ouvrir au monde extérieur et accueillir plus de gens. On s'entraide tous entre nous, vu qu'on est tous albanais. Et c'est ça qui règne vraiment l'entraide entre nous.
Alors, suite à cette interview, peut-on dire que tous les Albanais sont nationalistes ?
On va pas dire que tous les Albanais sont nationalistes, mais comme chaque personne, on est attaché à ses racines, à ce qu'on nous a enseigné. Et je pense que les Albanais sont ouverts aux autres cultures, mais qu'ils ont une attache vraiment importante à ce qu'on leur a enseigné. On va prendre l'exemple du drapeau et de l'aigle à deux têtes avec les ailes ouvertes. Ça montre vraiment l'ouverture d'esprit aussi de l'Albanie vers les autres pays.
Et quelle est la signification du symbole de ce drapeau albanais ?
Je sais pas.
Ah, parce que tu dis ça montre l'ouverture.
Mais c'est les ailes
déployées.
De l'aigle montrent l'ouverture. Je sais la signification des couleurs, comme le noir, c'est le mal-être qui a été ressenti. Et le rouge, c'est le sang qui a coulé pour unifier le peuple.
Puis c'est un côté agressif aussi, je pense,
ouais,
le côté rouge. Donc...
Le sang
ouais,
qui
c'est ça.
Coulé, donc il y a quand même une histoire derrière ce drapeau qui est très forte et qui a uni les Albanais. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on pense que c'est un pays qui est fort nationaliste, mais fort soudé aussi.
Ok, plus soudé que nationaliste,
oui, voilà, ouais.
Pur et dur, quoi. Et toi, t'en penses quoi, Mathias ?
Pour ma part, je suis assez d'accord déjà avec ce qu'il vient de dire. Maintenant, je ne pense pas que ça soit le cliché qui prédomine. Voilà, il y en a un peu partout. Je pense qu'il y en a certains qui sont nationalistes, mais voilà, c'est pas vraiment le cliché qui prédomine en Albanie, pour ma part.
Et qu'en est-il des us et coutumes au Maroc ? Tout de suite, nous allons retrouver la classe de préscolaire B. Quels sont les clichés que vous allez travailler ?
Dans notre classe, nous avons travaillé 3 clichés. Le premier étant « Les hommes marocains sont misogynes ».
Et tout de suite, voici le reportage que les élèves de notre classe ont réalisé.
Non, pas du tout. Je pense justement que les autant les hommes que les femmes s'entendent très bien, dans le sens qu'il y a le travail est assez bien réparti. Je pense que justement il n'y a pas le côté misogyne. Dans le sens que les femmes travaillent beaucoup, elles sont très actives dans tous les domaines. Et donc, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est un des pays où tout le monde est très actif dans la vie de tous les jours, autant culturelle qu'économique. Donc voilà, pour moi, je trouve ça, c'est vraiment formidable.
قصص لامور ما جاتش وحدة عند واحد خاص انت اللي تبدأ وانت اللي تجي تقول كاتب غيني شكون ضامن شي هجرة غيتها تولي تعايرني بها وتكويني.
Après cette interview, toi Charlotte, qu'est-ce que tu penses de ce cliché?
Eh bien, moi, je pense que la misogynie existe, malheureusement, mais pas juste chez les Marocains. Il ne faut pas faire cette généralité, car les Marocains sont comme n'importe quel autre homme.
Merci, Charlotte. Et toi, Céline?
Au Maroc, les choses ont bien évolué. Les femmes sont maintenant égales aux hommes. D'ailleurs, les femmes sont très importantes pour les préparations des mariages et autres cérémonies.
Donc, tu veux dire par là qu'elles s'occupent vraiment de toutes les coutumes
Oui, voilà. Et elles sont très importantes pour les coutumes, les mariages... Les hommes aussi, mais surtout les femmes.
Et vous avez justement eu l'occasion de voir des personnes marocaines qui vous ont parlé de ces coutumes, etc.
Oui, on a eu la chance d'interviewer Abdelkrim, qui nous a beaucoup parlé des coutumes.
Et il nous a même expliqué que sa femme, sans sa femme, il ne serait rien, car le baptême de ses enfants, enfin, toutes les fêtes liées à ses enfants, c'est sa femme qui décide tout. Lui, il va juste faire les courses, mais c'est sa femme qui décide de tout. Donc la femme est très importante dans le couple.
Quel est le deuxième cliché travaillé?
Le second cliché travaillé est « Les Marocains sont fiers de leur culture ».
Voici l'interview que nous avons réalisée à ce sujet.
Je crois qu'on est tous fiers de notre culture, peut-être pas les Marocains plus que les autres, si ce n'est qu'ils sont quand même arabes et qu'ils sont à la source de beaucoup de choses de notre savoir actuel.
Alors, les Marocains fiers de leur culture, cliché ou vérité ?
Fier est un bien grand mot, je trouve, pour parler de leur culture. C'est normal qu'ils soient fiers, parce que leur culture, c'est leur valeur, c'est ce qu'ils pensent. Là, ils ont été éduqués dans ces valeurs-ci. Donc je trouve que c'est normal d'être fier de sa culture, et voilà.
Bien, moi, je trouve qu'ils en sont fiers, mais comme les Belges aussi, comme toute nationalité. Mais ils ne l'imposent pas. Nous l'avons bien vu chez Abdelkrim, il n'impose pas sa culture aux autres membres de sa famille. Car comme il le disait, une religion, par exemple, c'est basé sur des valeurs et c'est quelque chose que l'on ne peut pas imposer à quelqu'un. Donc sa culture, c'est la même chose.
Merci pour ton intervention. Et quel est le dernier cliché que vous avez travaillé dans votre classe ?
Les Marocains ne font que des mariages blancs.
Et voici tout de suite l'interview.
Le mariage blanc est un mariage d'intérêt. Ça veut dire que les deux parties concernées ont un intérêt en commun. Une des parties a le côté administratif et l'autre partie, en général, le côté financier. C'est-à-dire que le mariage blanc existe dans toutes les communautés, qu'elles soient nord-africaines, Afrique noire. Non, je pense que ce n'est pas ça seul les Marocains. Je veux dire, beaucoup d'Afrique noire aussi font ce genre de mariage.
Pouvons-nous encore dire que les Marocains ne font que des mariages blancs ?
On associe souvent les Marocains au mariage blanc, mais ce ne sont pas que les Marocains qui font des mariages blancs. Il y a dans plusieurs... pays, plusieurs coutumes, ils le font aussi. Donc il ne faut pas directement associer les mariages blancs aux Marocains.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Céline. Les mariages blancs existent pour tous les immigrés, pour avoir leurs papiers, ce n'est pas uniquement les Marocains qui font ce genre de choses. Comme le dit Karine dans l'interview, il y a aussi des gens d'Afrique noire et pas seulement des Marocains.
Et maintenant, nous retrouvons le Congo avec non pas un, mais deux clichés présents sur les us et coutumes.
Le cliché qui a été travaillé est « tous les Congolais sont polygames ».
Pour en savoir plus, nous allons écouter un reportage dans quelques instants.
Est-il vrai de dire que tous les Congolais sont polygames ?
Non, je ne le crois pas, personnellement. Dans les villes, certainement pas, parce qu'il y a quand même une évolution grâce à toutes les technologies dont ils peuvent disposer maintenant. Et puis quand même, il y a un minimum d'études qui a été faite. Donc les jeunes certainement ne sont plus polygames. Mais dans les villages reculés, là j'ai quand même quelques doutes.
Alors les Congolais en général sont plutôt catholiques et donc ils ne peuvent pas être polygames légalement. Mais bon, qu'ils aient peut-être, par rapport à la sexualité, plus de liberté, qu'ils aient plus qu'une femme. Ils appellent ça d'ailleurs un deuxième bureau. C'est comme chez nous, quoi. Nous aussi, on a plein de types qui ont des deuxièmes bureaux, donc, et de femmes qui ont des deuxièmes bureaux. Donc ça n'a rien à voir avec la nationalité. De nouveau, c'est une question de mode de vie, de est-ce qu'on sait financièrement soutenir ça. Mais polygame, non, en plus, c'est même pas autorisé. Fireball.
Alors, les Congolais polygames, mythe ou réalité, qu'en pensez-vous ?
La polygamie au Congo fait partie de leur culture. Elle est vue comme un signe de richesse. Tous les Congolais ne sont bien sûr pas polygames. Cela dépend de leur région et aussi de leur famille, je pense.
Moi, je pense que tous les Congolais ne sont pas polygames. Personnellement, je n'aimerais pas partager, entre guillemets, mon mari. Mais si là-bas, c'est perçu autrement, je ne suis pas contre.
Et qu'en est-il pour le second cliché ?
Le second cliché qui a été travaillé est « Les Congolais sont tellement fiers de leur musique qu'ils dansent tout le temps ».
Pour en savoir plus, nous allons vous faire écouter un reportage que nous avons réalisé.
Congolaise est célèbre dans toute l'Afrique, elle est reconnue, donc ils pourraient en être fiers. J'ai pas le sentiment qu'ils affichent cette fierté. Je pense qu'ils ont un rapport à la danse et au chant qui est différent de celui qu'on pourrait avoir ici en Belgique, et c'est très bien. Je veux dire, y a pas de problème avec ça. Je pense pas donc qu'ils nous affichent une fierté en disant, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Par contre, ils ont un talent par rapport au chant et à la danse, ça c'est clair.
Est-ce que c'est vrai de dire que la fierté des Congolais se résume à leur danse qu'ils pratiquent tout le temps ?
Mais la musique congolaise est reconnue dans toute l'Afrique. Donc oui, ils pourraient en être fiers. Ils ne dansent pas tout le temps, mais c'est vrai qu'ils ont un certain talent pour tout ce qui est danse et musique.
Je pense que les Congolais n'affichent pas forcément leur fierté, mais ils ont du talent dans ce domaine et ils le mettent en pratique. En plus, chez eux, certaines musiques et danses sont d'ailleurs des traditions, comme par exemple lors d'un mariage.
Alors, revoilà la classe de primaire B, toujours sur la Turquie. Et maintenant, on va mettre en avant les us et coutumes en Turquie, avec un cliché. Mais quel est-il, Mélanie ?
Donc, ce préjugé s'intitule « Le kebab est primordial dans la vie d'un Turc ».
Alors maintenant, on va vous présenter l'interview d'un groupe de notre classe.
Retiens ce nom, restaurant Dinar, spécialité turque et kebab.
Le kebab est-il important,
crucial dans la vie d'un Turc. Je vous répondrai par une autre question. Est-ce que le steak frites compote est primordial dans la vie d'un Belge? Non, il me semble. Alors pourquoi accepter ce genre de cliché?
J'ai plusieurs amis qui sont turcs et qui sont des fervents admirateurs, si pas actionnaires à mon sens, de Pizza Hut. Donc ils mangent des pizzas et des frites à longueur de journée. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas les durum kebab et autres, je n'en ai jamais vu chez eux.
Et donc William, je sais que toi tu aimes les kebabs, mais est-ce que le kebab est primordial vraiment dans la vie d'un Turc ?
Alors primordial, je ne sais pas, mais j'ai déjà eu l'occasion de parler à un gérant d'un kebab qui m'a expliqué que chez les Turcs, en fait, leur viande chez eux est vraiment délicieuse et le kebab a vraiment de succès en Turquie aussi. Les prix aussi sont peu élevés, donc ça explique quand même un succès assez élevé en Turquie. Et voilà, il m'a expliqué que c'est pas primordial dans la vie d'un Turc, mais ça a quand même son importance chez eux, quoi.
J'ai pu remarquer que tous les vendeurs de kebab sont turcs, mais pour moi cela est normal, étant donné que c'est une spécialité turque. Mm-hmm. Il est évident que ce soit eux qui la cuisinent, mais ça ne veut pas dire que le kebab est le centre de leur vie.
Et pour conclure, finalement, le kebab important ou c'est un cliché qui n'a pas lieu d'être?
Pour moi, il est quand même important. Mais le kebab est quand même important dans la vie d'un Turc, mais ça ne tourne pas qu'à ça. Il y a aussi les Turcs ont aussi d'autres spécialités, d'autres centres d'intérêt que le kebab.
Et maintenant, nous passons aux us et coutumes concernant la Belgique.
Et le cliché travaillé est: les Belges trouvent toujours un prétexte pour faire la fête.
Et voici tout de suite l'interview.
Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire...
Je dirais qu'on ne peut pas dire ça pour tous les Belges. Il y en a, bien sûr, tout le monde aime bien faire la fête, mais il y a faire la fête et faire la fête. Il y a faire la fête que font plus les jeunes, où c'est, par exemple, aller en TD, mais on peut aussi faire la fête en juste prenant l'apéro entre familles ou faire la fête pour fêter un anniversaire, mais sans, pour ça, quand même, être bourré par après.
Je pense pas qu'ils trouvent toujours un prétexte, ils font la fête quand ils en ont envie, le plus souvent possible, parce que bon, ça distrait. Il faut voir aussi dans la société, avec la crise maintenant, on ne sait pas toujours faire toutes les fêtes qu'on voudrait.
Je voudrais te faire la fête, tout le monde te fera aussi.
Toi qui aimes justement faire la fête, est-ce que tu trouves toujours un prétexte pour la faire?
Eh ben non, parce qu'il y a faire la fête et faire la fête. Et bien sûr, faire la fête comme lorsqu'on se retrouve lors d'une réunion familiale, lors d'un anniversaire ou encore les réunions entre collègues, mais aussi faire la fête comme par exemple aller en boîte de nuit ou aller encore à un de ces nombreux festivals dans le monde. Le tout, c'est surtout de se dire que oui, il y a certaines personnes qui vont toujours trouver un prétexte pour faire la fête, mais à nouveau, généralisé par rapport aux Belges, il y a des fêtards partout dans le monde. Donc à nouveau, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui préfèrent faire la fête une ou deux fois par mois ou par an, et d'autres personnes qui aiment bien faire la fête tous les soirs. Ce cliché est non fondé.
Ritz, Harry Rats, Ritz up.
En conclusion, on peut dire que les us et coutumes dépendent d'une région, d'une religion, d'une personne qui la pratiquera plus ou moins selon la tradition qu'elle a connue et qu'elle veut ou non pérenniser. Le thème qui va suivre est le thème le plus important à l'heure actuelle, l'éducation. Mais avant d'écouter les premières bacs préscolaires et primaires,
écoutons les Pink Floyd avec Another Brick in the Wall.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. In the wall.
Oh,
all in all, you're just another brick in the wall.
We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any pudding.
We don't need no control.
How can you have any pudding if you don't?
Penchons-nous sur une thématique primordiale, l'éducation. Et pour cela, nous retrouvons la classe de primaire C. Est-ce que Mathias pourrait nous rappeler le cliché ?
Oui, tout à fait. Donc le cliché travaillé, c'était l'Albanie égale pays dangereux.
Et c'est parti pour l'interview.
Notre sujet de recherche porte sur les clichés suivants. L'Albanie égale pays dangereux. Qu'en est-il réellement de la véracité de ce cliché ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir.
Mais dangereux, dans quel sens dangereux, dangereux Paris aussi, hein, si on s'appelle il y a un mois et deux semaines, les attentats de Paris, ceux de Stockholm, etc. Danger, il est partout parce que c'est dans la nature, je dirais, dans la nature humaine, mais l'Albanie n'est pas plus dangereux que l'est la Libye, la Tunisie, l'Égypte, et puis d'autres pays.
L'Albanie est-il vraiment un pays dangereux ? Maxime.
Mais avant toute chose, je pense que nous, les Occidentaux, on a que trop souvent donc c'est les idées influencées par la télévision. Je pense que tous les jeunes ont par exemple vu le film Taken avec la prostitution, la traite d'êtres humains, ouais. La vente d'armes. Mais on oublie que même ici en Belgique, nous sommes un des premiers pays revendeurs d'armement dans le monde. Et c'est pas pour autant qu'on a peur des gens et peur de l'autre. Et c'est une idée préconçue d'un pays. Il faudrait d'abord peut-être aussi se poser la question du qu'est-ce que le danger, par rapport à quoi est-ce qu'on peut qualifier le danger ? Et je pense qu'il n'y a pas un pays plus dangereux qu'un autre. Certains endroits sont certes plus mal famés, mais on ne peut pas dire que globalement un pays est plus dangereux qu'un autre.
Je suis assez d'accord avec la personne qu'on avait interviewée.
Mmh. Qui était albanaise en fait.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, le danger, il s'amplifie un petit peu partout, que ça soit ici, que ça soit dans d'autres pays. Et je pense que le déclencheur primaire de ce cliché, le fait d'avoir peur, ben en fait, c'est tout, comme il a dit, c'est les médias. C'est ce que véhiculent les médias. Et en plus ici, ben, Albanie, avec le deuxième cliché, le premier cliché qu'on a vu, sont-ils musulmans? Musulmans, boum, les gens, ils ont peur de ça. C'est complètement débile parce que c'est faux. C'est faux. Et donc, les médias, ils savent où prendre les choses. S'il va avoir un vol, un main armée, que c'est un Belge, on va peut-être pas en parler. Mais par contre, si c'est un musulman, là, on en parlera. Un musulman ou d'un pays étranger.
Ou un Albanais,
bien sûr. On en parlera. Si c'est un Belge, si c'est un petit vol commis par un Belge, ah là, on n'en parlera pas spécialement. Et donc, voilà, et c'est ça que les gens, ben, ils en ont peur.
Il y a un effet de diabolisation, en fait, de la religion musulmane, ici, en Occident, je trouve. Et oui. C'est ça qui n'est pas bon.
Et comme on a le cliché, les Albanais sont tous musulmans, ça se rejoint.
Exact. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça se rejoint.
Et donc, nous revenons maintenant à nouveau sur le Maroc. Qu'en est-il du cliché que l'on peut retrouver par rapport aux Marocains?
Alors, le cliché que nous avons à travailler est le suivant: les Marocains sont tous des voleurs.
Et donc, nous allons encore une fois écouter une interview.
Ben, pas du tout. Quand on prend les voleurs en Belgique, il y en a de tout. Il y a des Marocains, il y a des Polonais, et il y a des Albanais, il y en a de tout. Mais effectivement, on parle toujours que du Marocain. On en parle tellement qu'on pense que tous les Marocains sont des voleurs. Quand il y a un fait de... C'est-à-dire qu'il y a un Marocain qui vole ou qui agresse, on en parle énormément. Et alors, les médias, je veux dire, précisent toujours que c'est un Marocain. Quand c'est un étranger d'autres nationalités, les médias n'en parlent pas. Ils en parlent, mais sans préciser la nationalité. Les gens, en général, quand ils entendent qu'il y a eu un vol ou qu'il y a eu un incident, n'importe lequel, et qu'ils entendent à chaque fois que c'est un Marocain, ils pensent que tous les Marocains ne sont que des voleurs. On oublie que les Marocains qui sont arrivés en Belgique, ils n'étaient pas des voleurs, c'est des gens qui ont quand même travaillé pour le pays, qu'ils ont fait pas mal. Mais ça reste qu'on oublie ce côté-là, mais on ne pense que les Marocains qui sont en Belgique, puisqu'on parle de la Belgique, ils sont que des voleurs. Mais tout ça, c'est les médias. Les médias font beaucoup.
Suite à cette opinion sur les Marocains tous voleurs, que pensez-vous de ce cliché maintenant?
Bien, moi, je pense que les médias ont leur part de responsabilité parce qu'en fait, ils forgent l'opinion publique. C'est vrai qu'on étiquette fort cette communauté lorsque des vols s'opèrent et c'est retransmis et donc c'est ancré dans la société. Et moi, pour ma part, je pense qu'il faut plus regarder le milieu social, l'influence subie par les jeunes.
Alors, j'ai juste envie de rajouter que ce sont surtout les jeunes Marocains qui sont victimes de ce cliché, parce qu'ils sont victimes donc de l'étiquette qui leur a été collée à la peau dès leur naissance.
Alors, revenons à la classe de préscolaire B. Quel est le cliché que vous avez travaillé?
Donc, nous avons aussi travaillé le cliché « Les Marocains sont tous des voleurs ».
Voici l'interview que notre classe a réalisée.
Ah, je me suis encore fait voler mon GSM!
Ben oui, c'est encore certainement un des Marocains!
Nous entendons souvent ce genre de réflexion. Êtes-vous d'accord avec ce cliché? Les Marocains sont des voleurs?
Non. Je veux dire, c'est pas logique de tous les mettre dans le même plat. Il y a des Marocains qui sont honnêtes. Il y a des Belges qui sont voleurs, ça veut pas dire qu'on l'est tous. Ce serait ridicule de dire ça pour les Marocains.
Et donc, Charlotte, Marocains, tous voleurs ?
Non, pas spécialement. Car moi, personnellement, je me suis déjà fait voler mon portefeuille et mon GSM. Et ce n'était absolument pas des Marocains. Ce cliché est basé sur la généralisation des mauvaises expériences des gens. Et ce n'est donc pas un cliché fondé.
Qu'as-tu à dire par rapport à ça ?
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce cliché. Les Marocains ne sont pas tous des voleurs. N'importe qui, de n'importe quelle religion, peut être voleur. Mais souvent, on associe les Marocains... C'est un cliché, et du coup, les gens vont se méfier des Marocains alors qu'il ne le faut pas. C'est... Enfin, voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec ce cliché.
Et qu'en est-il pour le Congo ? Quels sont les clichés que nous pouvons retrouver sur l'éducation congolaise ?
Nous allons aborder le cliché « Les Congolais ne sont pas instruits ».
Pour commencer, voici l'interview de notre classe.
En 2008, Sandrine, une jeune Congolaise, s'est fait connaître aux États-Unis grâce à son invention, une voiture électrique. Or, partout autour de nous, nous entendons dire que les Congolais ne seraient pas instruits. Mais d'où vient ce cliché ? Un autre Congolais, Liyundula Makanzu, est connu pour ses inventions. Un four célèbre breveté en 1993 et un four amélioré à bois breveté en 2000, ainsi qu'un moulin à manioc et un séchoir électrique pour poissons. Il a déclaré « Il ne faut pas attendre que la nation fasse quelque chose pour vous, mais que vous fassiez quelque chose pour elle. » Nous allons maintenant interviewer Mozart, un étudiant congolais qui fait actuellement un master en éducation aux médias à la Haute École de Communication et de Journalisme, l'IEX.
À mon avis, ce n'est pas du tout fondé, parce que ça part de quelles statistiques déjà ? La plupart des Congolais vivent dans les grandes villes et l'entièreté du pays est pratiquement vide. Il y a beaucoup de forêts, et ceux qui sont dans les grandes villes, ils vont normalement à l'école. Donc, et la preuve, moi, j'ai fait un master en éducation aux médias en Belgique. Et s'ils m'ont pris à ce niveau, c'est que j'en avais les moyens, j'avais la compétence, la qualification nécessaire. Voilà, je ne pense pas. Et autour de moi, il y en a plein qui... Ce n'est pas les nombres d'universités qui manquent. Il y en avait moins en 60 à l'indépendance. Non.
Alors, nous revoilà après l'intervention de Mozart, qui nous a parlé de son vécu. Vous en pensez quoi de ce cliché, les Congolais ne sont pas instruits ?
Eh bien, c'est un cliché qui n'est pas fondé, parce que on peut le voir sur une étude récente d'UNICEF, où les chiffres montrent tout à fait le contraire. Les enfants sont scolarisés, en tout cas en primaire, un tas qui est plus que 90%, et... dans les familles congolaises, c'est très important que leurs enfants soient scolarisés. Maintenant, c'est vrai que le taux descend en secondaire, mais c'est plutôt une question culturelle, des besoins de travailler ou des situations aussi économiques pour lesquelles les familles ne peuvent pas se permettre de continuer à envoyer leurs enfants à l'école. Parce qu'ils ont besoin de mains pour travailler.
Je suis d'accord avec Marga. De toute façon, Mozart a dit que quand il a quitté le Congo, il avait son graduat et que maintenant il travaille en Belgique. Ce qui veut bien dire que le master qu'il a fait au Congo est égal au diplôme ici qu'on pourra avoir si on fait un master en Belgique. Donc les diplômes sont équivalents, donc ça veut bien dire que les Congolais sont tout aussi instruits que les Belges.
Voilà, donc différents facteurs peuvent démontrer que oui, il y a certains Congolais qui ne sont pas instruits, mais ce n'est pas une généralité, ce n'est pas le cas dans tout le pays. Et même en Belgique, les Congolais sont tout aussi instruits que nous. Voilà, merci.
Tout à fait.
Pum, 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 pum,
Alors maintenant, Mélanie et William vont nous parler d'un autre cliché en Turquie qui concerne l'éducation. Quel est-il ?
Alors, le dernier cliché qu'on va vous présenter, c'est « Les Turcs ne savent pas parler français ».
Je vous propose d'écouter ce dernier cliché qui concerne la Turquie.
Écoutez, pour ma part, j'ai l'occasion de côtoyer de nombreuses nationalités dans mon boulot. Effectivement, je côtoie des Polonais, des Italiens, des Anglais, des Français et également des Turcs. Et il y a, si je me souviens bien, c'était il y a un an ou deux, effectivement, j'avais un jeune Turc, Alperen, et qui était, à mon sens, un des élèves les plus doués, notamment en histoire et en géographie, et en français également. Donc lors de la rédaction de ces textes en histoire, il avait ce que j'appelle un style qui était extrêmement développé, menant toujours et ayant toujours des arguments très percutants, très persuasifs. Et je pense qu'il savait persuader dans ses dissertations notamment et dans ses réponses en histoire, pour la simple et bonne raison qu'il avait ce que j'appelle un bagage culturel très important, donc lisant énormément de bouquins. Je ne connais pas énormément de Turcs, mais un seul Turc suffit, à mon sens, à déconstruire ce cliché.
Alors Mélanie, c'est vrai ou pas, les Turcs savent pas parler français ?
Pour moi, ce cliché est totalement faux, car j'ai rencontré plusieurs personnes turques en secondaire, et elles n'avaient aucun problème pour s'exprimer en français. D'ailleurs, c'était parfait. Et nous n'avions vraiment aucun problème de communication.
Ben, je rejoins tout à fait Mélanie sur ce sujet-là. Allez, j'ai des amis qui sont turcs également. Et ils parlent vraiment très bien français. Ils font des études comme nous. Ils sont vraiment bien intégrés dans la société. Donc, ce cliché-là est totalement faux pour nous, quoi.
Et je pense que c'est l'avis de la majorité des personnes en Belgique.
Et enfin, nous terminons par l'éducation en Belgique.
Et oui, nous allons mettre en avant le cliché « Les Belges ne s'intéressent pas trop à la culture générale ».
Et tout de suite, l'interview.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles...
Ben, je dirais pas que c'est un fait qui dépend de la nationalité d'une personne, mais plutôt de son caractère et de comment il a été élevé et de ses intérêts. Parce qu'il y a un luxembourgeois, peut-on ne pas s'intéresser à la culture générale qu'une personne africaine, qu'une personne marocaine, d'une personne allemande. Donc pour moi, c'est pas un prétexte, un... truc lié à une nationalité, mais plutôt à la personnalité d'une personne.
On voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gilet.
Alors, Florie, est-ce que les Belges ne s'intéressent pas trop à la culture générale ?
Bah, je dirais que non. Et on a un super exemple. Christophe Bourdon étant belge qui a gagné au jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place. C'est un jeu télévisé qui est souvent diffusé sur la 2. Et il est resté plus de 3 mois sur le fauteuil français, et oui. Aussi, il faut savoir ce que l'on entend par culture générale. Bon, il y a la culture générale au niveau du sport, de la télévision, du cinéma, la littérature. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui est politique, tout ce qui est lié au pays, à la géographie, etc. Et donc, je pense que chacun est calé dans un ou plusieurs domaines, mais que l'on s'est tous au moins un jour intéressé à d'autres thématiques, et même sans le savoir, ne serait-ce qu'en lisant un journal, le métro, dans le train par exemple, en regardant la télévision, en parlant même avec des amis. Donc oui, on apprend énormément en parlant, en allant vers les autres. Et puis aussi, le fait d'être dans une nouvelle ère, une ère médiatique, fait qu'on a plus vite accès à l'information, à la culture, à une culture qui s'étend de plus en plus.
Et voilà, nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre émission radiophonique sur les clichés de la Belgique, du Maroc, du Congo, de l'Albanie et de la Turquie.
Les participants ont pu, grâce aux interviews, grâce aux reportages, se décentrer, faire fi de leurs préjugés et aborder le débat interculturel qui est fortement présent actuellement. On vous remercie d'ailleurs pour cette écoute et on espère que votre vision aura évolué et changé. Et surtout que vous pourriez échanger avec d'autres personnes dans référentiels culturels autres que le vôtre et que vous pourrez prendre en compte tout ce qui a été dit. On espère aussi que ce projet pourra être utilisé par des écoles et que différents profs feront de même avec leurs élèves parce qu'il est important de faire prendre conscience à tout le monde qu'autrui existe, que différentes cultures sont mélangées ici en Belgique et qu'on se doit de connaître la personne, d'aller vers la personne, afin de ne pas généraliser et de déconstruire tout simplement les préjugés qu'on a à la base.
Nous espérons ainsi que notre émission radiophonique a permis d'ouvrir les yeux et surtout les oreilles à de nombreuses personnes, pas seulement les jeunes, mais aussi les personnes un peu plus âgées, peut-être qui ont été peut-être un peu plus fermées par rapport à ces préjugés. Nous avons passé un excellent moment auprès des élèves de l'ENALUX parce que je pense que ce projet a permis non seulement d'apprendre sur ce que nous réalisons, mais nous avons appris sur ce qu'eux ils pensent par rapport à ces préjugés, ces clichés.
Gaëlle et moi remercions l'ASBL Carrefour des Cultures ainsi que les professeurs de diversité culturelle et de TIC de l'ENALUX qui nous ont aidés et nous espérons que vous avez passé une agréable émission. À bientôt. Bye,